Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi de commentaires à l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. FAO encourage une approche une santé pour surmonter la propagation des maladies infectieuses. L'Afghanistan espère que l'Indonésie promeut les valeurs de tolérance. PT Inka cible à dominer les marchés de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique. Selon la ministre des Finances, l'économie indonésienne était stable. Yusuf Kalla ouvre la campagne de candidature de l'Indonésie en tant que membre du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Éradiquer la pêche illicite, la ministre indonésienne Susi Pujiastuti invite le public de surveiller le mouvement des navires dans le monde. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La menace de nouvelles maladies et les maladies proviennent d'animaux est une menace réelle en Indonésie. L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, ou FAO, a identifié l'Indonésie comme l'un des sacs pour les maladies infectieuses émergentes, ou MIE, en Asie. Dr. James Megren, le chef d'équipe du Centre d'urgence de la FAO pour les maladies animales transfrontalières d'Indonésie, après avoir assisté à l'ouverture de séminaire international sur le défi et opportunité de la profession vétérinaire dans la protection de la santé mondiale, jeudi à Banten, a déclaré « Pour surmonter ces défis, il a fallu des efforts mondiaux de toutes les parties prenantes dans la prévention et le contrôle de la propagation des maladies infectieuses émergentes et les maladies zoonotiques. Selon lui, cela peut être effectué à travers l'approche une seule qui combine le secteur de la santé, l'agriculture, les animaux et l'environnement pour atteindre une santé optimale pour les personnes, l'agriculture et l'élevage, la faune et l'environnement.
The only way that we can properly address
la seule façon de lutter contre les maladies infectieuses des animaux est une nouvelle maladie infectieuse et nous travaillons ensemble. Cela veut dire non seulement avec le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de la Santé et l'Environnement, parce que le secteur de l'environnement est un reflet de la santé des animaux, les humains et l'environnement. Donc, l'approche une seule santé met l'accent sur la collaboration intersectorielle dans laquelle les nouvelles maladies proviennent d'animaux et l'approvisionnement alimentaire qui pourrait affecter la santé humaine. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, a noté que près de 75% des maladies infectieuses émergentes et des maladies anciennes réémergentes sont et zoonotiques. Selon la FAO, un facteur de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, entre autres, la mondialisation qui accélère la circulation transfrontalière des animaux et des humains, des changements dans l'écologie et le développement agricole, l'augmentation de la population humaine et les changements dans le comportement humain, le développement de la technologie et de l'industrie, l'adaptation et l'évolution des micro-organismes et la réduction de la prévention de la santé publique. L'ambassadeur de l'Afghanistan en Indonésie, Roya Rahmani, veut que l'Indonésie devienne l'agent de changement et promouve les valeurs de tolérance islamique. Il croit que l'Indonésie, avec une majorité des musulmans qui interprètent l'islam de façon tolérante, peut être l'agent de changement qui favorise ces valeurs, surtout dans le monde islamique. Ce désir a été transmis par Roya Rahmani dans la commémoration du 97e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan jeudi soir à Jakarta. Selon lui, l'Afghanistan promouvra également la valeur de modération, de tolérance et de pluralisme. Et selon lui, en tant que pays qui avait combattu contre le terrorisme et l'extrémisme, la société, les ulémas, les universitaires et les parties prenantes en Afghanistan voulaient promouvoir également ces valeurs avec l'Indonésie. PT Industrie Kereta Api Indonesia ou INKA fixe des objectifs à dominer le marché de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique après avoir réussi à élargir sa part de marché dans la région de l'ASEAN. Le directeur des finances et des ressources humaines de PT INKA, M. Muhammad Nur Sodik, en marge de la livraison de 3 wagons vers le Bangladesh, a déclaré qu'il avait établi des relations avec l'Égypte, de sorte qu'il a le droit de développer des produits en Égypte. Mohamed Nur Sodik a déclaré que la région de l'ASEAN avait utilisé le produit de PT INKA. Aujourd'hui, l'entreprise participe à la soumission pour les trains diesel électriques au Sri Lanka. Il a souligné que bien que l'orientation de PT INKA soit l'exportation, mais cette entreprise répondait au marché intérieur. PT INKA essaie d'être l'hôte dans son propre pays. Le ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que l'économie indonésienne restait stable. En dépit de la situation économique mondiale actuelle, n'a pas montré de signes de reprise significative. Sri Mulyani, tout en donnant un discours au séminaire « Les défis de l'économie mondiale » à Jakarta jeudi, a déclaré que le potentiel économique de l'Indonésie était très grand et l'Indonésie était devenue un pays de destination pour les investissements parce qu'elle a l'avantage de la facilité de licence et de bonus démographique qui est une valeur ajoutée dans quelques années à venir. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla dirige directement la campagne de la candidature de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020. La déclaration officiellement de la campagne de candidature de l'Indonésie a été marquée par le battement de gong par le vice-président Yusuf Kalla dans le bâtiment de l'ONU à New York, les États-Unis, le jeudi. L'événement a eu lieu dans les représentations culturelles indonésiennes, assistées par des centaines de diplomates étrangers, ainsi que le président de la Commission 1 du Parlement, M. Abdul Haris. Selon Yusuf Kalla, le principal rival de l'Indonésie est les Maldives. Il croit que l'Indonésie a une plus grande chance de gagner. Selon Yusuf Kalla, il y a beaucoup de soutien d'autres pays. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré que maintenant les gens pouvaient surveiller le mouvement des navires et des activités de pêche dans le monde entier dans le site globalfishingwatch.org gratuitement. L'objectif est pour que la communauté puisse surveiller le mouvement des navires étrangers en temps réel, afin de réduire la pratique de la pêche illégale dans les eaux indonésiennes. Susi Pujiastuti, dans une conférence de presse au ministère des Affaires maritimes et de la pêche à Jakarta jeudi, a déclaré que l'existence du programme pouvait réduire la pratique de la pêche illégale dans les eaux indonésiennes. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis de l'antenne, bonsoir. Comme d'habitude, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la session de l'Assemblée générale de l'ONU 2016. L'Assemblée générale de l'ONU est l'un des 6 organes principaux de l'ONU. Cette assemblée est composée de tous les pays membres et ils se réunissent chaque année. Habituellement, la session commence à prendre place dans la troisième semaine de septembre et se termine à la mi-décembre. Lors de la réunion pendant près de 3 mois, plusieurs questions sont abordables allant des questions politiques aux droits de l'homme. Des milliers de divers milieux allant de célébrités aux travailleurs domestiques parlent de leur propre lutte dans le forum entre les nations. L'un d'eux qui a la chance de parler à l'Assemblée générale de l'ONU cette année est Enil Stari, un militant de travailleurs migrants de l'Indonésie. Maintenant, elle sert en tant que présidente de l'Alliance des migrants internationaux. Ceci est la première fois pour un militant qui avait été une femme de chambre pendant 15 ans à Hong Kong. Elle a exprimé l'espoir que le monde et son pays sont vraiment préoccupés par les travailleurs étrangers, en particulier l'Indonésie. Dans une interview, Enil Stari a expliqué, bien qu'elle n'espère pas à l'Organisation des Nations Unies pour résoudre les problèmes de l'exploitation des travailleurs migrants, elle va continuer son combat. Dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, la femme indonésienne a exprimé la nécessité pour l'ONU d'assurer le suivi de l'approbation du projet de plan de certains accords internationaux concernant le sort des travailleurs migrants. Elle a également exhorté le gouvernement indonésien à traiter les travailleurs migrants correctement et humainement. Selon les données du ministère de la main-d'œuvre, il y a actuellement 6 millions de travailleurs migrants dans le monde entier. Le problème des travailleurs migrants est l'un des nombreux ordres du jour de l'Assemblée générale cette année. D'autres sujets de préoccupation sont les réfugiés et les conflits qui se produisent dans de nombreuses régions du monde. Le gouvernement indonésien, représenté par le vice-président Yusuf Kalla, a accordé une attention à l'effort de résoudre les conflits armés qui sont toujours en cours, comme en Irak et en Syrie. Beaucoup d'ordres du jour sont discutés, mais les attentes et les espoirs de résoudre divers problèmes sont toujours remis en question. Pour la question des réfugiés, par exemple, une agence des Nations Unies qui traite le problème est incapable de jouer un rôle important. Cela est dû à la propagation continue du conflit qui provoque principalement l'exode des réfugiés. La résolution des conflits n'a pas encore atteint le succès, en dépit de l'Organisation des Nations Unies a fait une intervention. Des efforts conjoints doivent être pris pour que l'objectif de l'ONU de créer un monde de paix et de justice puisse être réalisé. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs auditrices du monde entier, voici aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 23 septembre. Nous allons commencer. Le 23 septembre 1932, le royaume de Hejaz et de l'Égypte ont devenu le royaume de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ou le royaume d'Arabie Saoudite est un pays arabe situé sur la péninsule arabique. Désert tempéré, le territoire est principalement constitué de sable du désert avec le plus grand désert d'Europe, Al-Khali. Les Arabes ont dit le mot du désert est Sahara. Les pays frontières de l'Arabie Saoudite et la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Golfe Persique et les Émirats Arabes Unis, Oman, le Yémen et la Mer Rouge. Le 23 septembre 1932, Abdul Aziz ibn Saud Abdurrahman, que également connu comme Ibn Saud, a proclamé le royaume d'Arabie Saoudite pour unifier la région de Riyad, Najd ou Nejd, Ha'a, Asir et Hijaz. Abdelaziz est devenu plus tard le premier roi du royaume, ainsi compris le nom et dérivé du nom de la famille royale saoudienne d'Abdelaziz à Saoud. En chance, le 23 septembre 1973, Juan Perón est revenu au pouvoir en Argentine. Juan Domingo Perón a été général et le politicien argentin. Perón a été élu pour 33e mandat en tant que président de l'Argentine. La première période de 1946 à 1950, la deuxième période de 1950 à 1955, le 19 septembre 1955, Perón a été rejeté et exilé après que l'armée a organisé un coup d'état du gouvernement. L'exil pendant 18 ans ne se fend pas d'influence parmi le peuple. En 1973, à l'âge de 70, Perón a été réélu en tant que président de l'Argentine pour la troisième fois. On termine le 23 septembre 1991, l'Arménie est devenue indépendante de l'Union soviétique. La République d'Arménie est un pays connu comme l'Europe et l'Asie. Le pays est bordé par la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran est enclavé du Nakhichevan au sud. L'Arménie est membre du Conseil d'Europe, les États indépendants à travers les siècles dans la zone de la piste et franchissement de l'est et de l'ouest. Il est devenu indépendant de l'Union soviétique le 23 septembre 1991. Les solidarités, c'était l'histoire d'aujourd'hui, ce soir. À demain.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la mise au point ayant pour titre « Le gouvernement a dissous 9 institutions non structurelles ». Le président Joko Widodo, dans une séance limitée tenue au bureau présidentiel mardi, a approuvé la dissolution des 9 institutions non structurelles. Cette dissolution liée à se s'échauffer avec les institutions qui existent déjà est pour l'efficience et l'efficacité du budget. Ces 9 institutions non structurelles sont le Conseil national des semences, le Conseil du contrôle de la formation de masse, le Conseil de la stabilisation de résilience de l'économie et des finances, le Comité de l'orientation du développement des zones économiques spéciales aux îles de Batam, de Bintan et de Karimun, l'équipe nationale de la normalisation des noms topographiques, le Conseil de la mer d'Indonésie, le Conseil national de la zone de libre-échange et du port franc, le Conseil national de coordination de l'aménagement du territoire et la Commission nationale pour le contrôle des zoonoses. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung et le ministre de la réforme administrative et bureaucratique Asman Abnur, après une réunion du cabinet à Jakarta mardi le 20 septembre, a déclaré la dissolution des 9 institutions non structurelles est une décision prise lors de la réunion du cabinet. Relatif à cela, le ministre de la Réforme administrative et bureaucratique, Asman Abnur, a dit « Les tâches et les institutions dissoutes seront retournées aux ministères existants. » Par exemple, le Conseil national des semences sera retourné au ministère de l'Agriculture. En ce qui concerne le sort des employés, Asman a dit « Les employés de l'institution non structurelle dissoute est seulement 10 à 20 personnes. » Ils seront retournés au ministère concerné, tandis que les employés temporaires vont suivre les règles applicables. La dissolution des institutions non structurelles sera appliquée après la publication du règlement présidentiel. Pendant ce temps, le secrétaire du cabinet Pramono Anung a expliqué qu'en 2014, il y avait 127 institutions non structurelles. Plus tard, dans la même année, 10 institutions non structurelles ont été dissoutes. Puis, en 2015, 2 institutions non structurelles ont été dissoutes. Alors que mardi, 9 institutions non structurelles sont décidées d'être dissoutes. Donc, il y a 21 institutions non structurelles qui ont été supprimées. Il a dit qu'avec la suppression de 21 institutions non structurelles, le reste est 106 institutions non structurelles se composant de 85 établis en vertu de la loi et le reste est basé sur le règlement présidentiel, le décret présidentiel. L'observateur de la politique publique Budi Santoso, dans la discussion avec Radio République Indonesia, mercredi évalue que la dissolution est exacte. Même jusqu'à présent, 9 institutions non structurelles n'ont pas de fonction claire. Budi prévoit que le président Joko Widodo continuera de dissoudre l'institution non structurelle inefficace. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
La menace des nouvelles maladies et les maladies proviennent d'animaux est une menace réelle en Indonésie. L'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, ou FAO, a identifié l'Indonésie comme l'un des sacs pour les maladies infectieuses émergentes, ou MIE, en Asie. Dr. James Megren, le chef d'équipe du Centre d'urgence de la FAO pour les maladies animales, transfrontalière d'Indonésie après avoir assisté à l'ouverture de séminaire international sur le défi et opportunité de la profession vétérinaire dans la protection de la santé mondiale, jeudi à Banten a déclaré « Pour surmonter ces défis, il a fallu des efforts mondiaux de toutes les parties prenantes dans la prévention et le contrôle de la propagation des maladies infectieuses émergentes et les maladies zoonotiques ». Selon lui, cela peut être effectué à travers l'approche une seule qui combine le secteur de la santé, l'agriculture, les animaux et l'environnement pour atteindre une santé optimale pour les personnes, l'agriculture et l'élevage, la faune et l'environnement.
The only way that we can properly address
la seule façon de lutter contre les maladies infectieuses des animaux est une nouvelle maladie infectieuse et nous travaillons ensemble. Cela veut dire non seulement avec le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de la Santé et l'Environnement, parce que le secteur de l'environnement est un reflet de la santé des animaux, les humains et l'environnement. Donc, l'approche une seule santé met l'accent sur la collaboration intersectorielle dans laquelle les nouvelles maladies proviennent d'animaux et l'approvisionnement alimentaire qui pourrait affecter la santé humaine. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, ou FAO, a noté que près de 75% des maladies infectieuses émergentes et des maladies anciennes réémergentes sont et zoonotiques. Selon la FAO, un facteur de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, entre autres, la mondialisation qui accélère la circulation transfrontalière des animaux et des humains, des changements dans l'écologie et le développement agricole, l'augmentation de la population humaine et les changements dans le comportement humain, le développement de la technologie et de l'industrie, l'adaptation et l'évolution de micro-organismes et la réduction de la prévention de la santé publique. L'ambassadeur de l'Afghanistan en Indonésie, Roya Rahmani, veut que l'Indonésie devienne l'agent de changement et promouve les valeurs de tolérance islamique. Il croit que l'Indonésie, avec une majorité des musulmans qui interprètent l'islam de façon tolérante, peut être l'agent de changement qui favorise ses valeurs, surtout dans le monde islamique. Ce désir a été transmis par Roya Rahmani dans la commémoration du 97e anniversaire de l'indépendance de l'Afghanistan jeudi soir à Jakarta. Selon lui, l'Afghanistan promouvra également la valeur de modération, de tolérance et de pluralisme. Et selon lui, en tant que pays qui avait combattu contre le terrorisme et l'extrémisme, la société, les ulémas, les universitaires et les parties prenantes en Afghanistan voulaient promouvoir également ces valeurs avec l'Indonésie. PT Industrie Kereta Api Indonesia ou INKA fixe des objectifs à dominer le marché de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique après avoir réussi à élargir sa part de marché dans la région de l'ASEAN. Le directeur des finances et des ressources humaines de PT INKA, M. Muhammad Nur Sodik, en marge de la livraison de 3 wagons vers le Bangladesh, a déclaré qu'il avait établi des relations avec l'Égypte, de sorte qu'il a le droit de développer des produits en Égypte. Muhammad Nur Sodik a déclaré que la région de l'ASEAN avait utilisé le produit de PT INKA. Aujourd'hui, l'entreprise participe à la soumission pour les trains diesel électriques au Sri Lanka. Il a souligné que bien que l'orientation de PT INKA soit l'exportation, mais cette entreprise répondait au marché intérieur. PT INKA essaie d'être l'hôte dans son propre pays. Le ministre des Finances, Mme Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que l'économie indonésienne restait stable. En dépit de la situation économique mondiale actuelle, n'a pas montré de signes de reprise significative. Sri Mulyani, tout en donnant un discours au séminaire « Les défis de l'économie mondiale » à Jakarta jeudi, a déclaré que le potentiel économique de l'Indonésie était très grand et l'Indonésie était devenue un pays de destination pour les investissements parce qu'elle a l'avantage de la facilité de licence et de bonus démographique qui est une valeur ajoutée dans quelques années à venir. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le vice-président Yusuf Kalla dirige directement la campagne de la candidature de l'Indonésie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019 jusqu'à 2020. La déclaration officiellement de la campagne de candidature de l'Indonésie a été marquée par le battement de gong par le vice-président Yusuf Kalla dans le bâtiment de l'ONU à New York, les États-Unis, le jeudi. L'événement a eu lieu dans les représentations culturelles indonésiennes, assistées par des centaines de diplomates étrangers, ainsi que le président de la Commission 1 du Parlement, M. Abdul Haris. Selon Yusuf Kalla, le principal rival de l'Indonésie est les Maldives. Il croit que l'Indonésie a une plus grande chance de gagner. Selon Yusuf Kalla, il y a beaucoup de soutien d'autres pays. La ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujiastuti, a déclaré que maintenant les gens pouvaient surveiller le mouvement des navires et des activités de pêche dans le monde entier dans le site globalfishingwatch.org gratuitement. L'objectif est pour que la communauté puisse surveiller le mouvement des navires étrangers en temps réel afin de réduire la pratique de la pêche illégale dans les eaux indonésiennes. Susi Pujiastuti, dans une conférence de presse au ministère des Affaires maritimes et de la pêche à Jakarta jeudi, a déclaré que l'existence du programme pouvait réduire la pratique de la pêche illégale dans les eaux indonésiennes. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé La tradition de Baturunan. Baturunan, pour les habitants de la région de Berau, est une tradition de coopération mutuelle qui a été faite par leurs ancêtres depuis longtemps et elle est maintenue jusqu'à présent. L'une des traditions de Baturunan est l'ong batu, qui est fait par les gens du district de Gunung Tabur. Il y a quelques semaines, on a tenu des jeux d'aviron de la communauté de Berau, Kalimantan Oriental. Les jeux de la longueur du bateau, une partie de la célébration du 63e anniversaire de Berau. Avant le match, les gens de cette région organisent une activité appelée Baturunan. À cette occasion, le bateau dragon de Sequin est descendu dans la rivière, celle qui divise la ville de Berau. Le bateau qui est abaissé dans la rivière de Sega à la fête de Baturunan, nommé Naga Sequin. Naga Sequin, dans la langue de Banua ou Berau, signifie « le dragon à deux têtes ». Il est placé dans la cour du musée de Gunung Tabur, la régence de Berau. Naga Sequin est un bateau en bois d'une longueur de 19 mètres et a une largeur d'un mètre. Il est construit en bois de meranti rouge. Le bateau est capable de transporter 30 hommes. L'extrémité avant du bateau en forme de tête de dragon sculptée. Dragon Sequin est une relique du palais de Berau et maintenant il est exposé dans le musée. La tradition de Baturunan dure pendant des générations depuis la création du royaume de Berau. Baturunan a le sang de la coopération mutuelle signifie également une aide mutuelle entre les peuples. Lorsque le bateau sera descendu dans la rivière, les voisins et les familles sont invités à manger ensemble. Ensuite, le bateau est poussé jusqu'à la rivière. Baturunan peut également être interprété comme les relations, l'amitié, la camaraderie, la sécurité, la parenté, la coopération, le travail d'équipe, un but, l'unité et l'unité du peuple de Berau. La tradition de Baturunan du long bateau devient le programme permanent dans une série de l'anniversaire de la régence de Berau. On souhaite que cet élan puisse évoquer l'esprit de la solidarité communautaire et une partie de l'attraction touristique. Baturunan est une tradition de la communauté de Berau qui a un sang très large. En plus d'avoir la chance de la coopération mutuelle et de convivialité, la tradition Baturunan à long bateau est prête à courir dans le débit de la rivière de Sega. Depuis longtemps, Baturunan est fait lorsque la plantation du riz, la récolte. Chers amis, c'était le magazine culturel de la voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé La tradition de Baturunan de la province de Kalimantan Oriental. Merci à tous et à demain.
Couleur, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans le programme L'Indonésie en couleur. Chers auditeurs, la région spéciale de Yogyakarta est une des provinces d'Indonésie qui a quatre résidences et une ville de la province. L'une des résidences est Sleman. Liée à la résidence de Sleiman, l'Indonésie en couleur pour ce soir a le thème un festival de collaboration organisé en résidence de Sleiman. Chers auditeurs, si vous visitez Yogyakarta, précisément Sleiman à la fin de cette semaine, vous serez offert avec des activités de tourisme culturel intéressantes. Parce que du 23 au 25 septembre, le gouvernement de résidence de Sleiman organise l'événement culturel avec le thème « L'arc en ciel culturel de la terre de Merapi » au complexe du gouvernement de résidence de Sleiman. Cet événement mettant en vedette le potentiel diversifié de l'art, la culture et la tradition des gens des pentes du Merapi. Cette année, elle est la deuxième activité, l'art en ciel culturel de la terre Merapi collabore avec d'autres événements tels que le Festival des arts de Sleiman, Brigada Prajurit et le Carnaval de l'art en ciel culturel. L'événement actuel sous la forme du carnaval culturel est une forme d'expression de la vie artistique des gens de Sleiman. Selon le chef du département de la culture et du tourisme de la résidence de Sleiman, Ayu Laksmi Dewi, les gens de Sleiman sont les gens de terre Merapi qui, en termes réels, à la complexité et la réalité culturelle qui est encore forte dans le public. Ainsi, ce potentiel peut être exploré pour soutenir le tourisme de Sleiman. Par conséquent, l'organisation annuelle est basée sur le fait que Sleiman a la diversité culturelle. Ce potentiel n'est pas seulement sous la forme d'une variété d'art traditionnel et contemporain, mais aussi d'autres types d'art et de la culture comme des cérémonies traditionnelles et des activités de nettoyage de village. Ayu a ajouté, le pic de l'événement le 25 septembre est animé avec le carnaval suivi par 50 contingents d'art et de la culture, 10 contingents de musées et 7 contingents de représentants d'autres provinces comme Riau, Lampung, Papouasie, Sulawesi du Sud, Kalimantan Ouest, Nusa Tenggara Ouest et Bali. À travers l'activité l'art en ciel culturel de la terre Merapi, les arts et la culture et les traditions pourraient être durables. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, la voix de l'Indonésie, voici le magazine de musique édition de vendredi. Et pour ce soir, le rythme de dangdut. Et avec la chanteuse Camilla Malik. Vous savez, Camilla Malik, elle est très connue quand, avec son époux Renold Panggabean, fondé le groupe Tarantula. Auparavant, aux années 80, Mia, le nom de populaire de Camilla Malik, pense que sa voix n'est pas si belle. Mais son mari, Renold Panggabean, la supporte toujours avec le groupe Tarantula. Alors, son mari a composé des chansons qui sont liées avec le caractère de voix de Mia. Plus tard, la chanson Colek Colek est publiée, qui s'accorde avec la voix de Mia. Bon, chers amis, allez écouter la chanson de Camilla Malik avec la chanson Colek Colek. Bonne écoute. Chers amis, vous venez d'écouter la chanson Cholak Cholek. Et vous avez, grâce à cette chanson, Camilla Malik avec le groupe Tarantula sont populaires dans le monde musical indonésien. De plus, on peut égalité ou égal, son nom est similaire avec le légendaire de dangdut Elvis Sukaisi et Roma Irama. Camilla Malik est très doué de danse jaipong, c'est-à-dire la danse traditionnelle sundanese. Elle mixe le rythme de dangdut avec la danse jaipong. C'est pourquoi le style de Camilla Malik est très vivant et différent que les autres. Avec son groupe, Mia a fait le tour à l'étranger comme à Tokyo au Japon. Cependant, le Tarantula propose le nouveau genre musical car il mixe et adopte le jazz, pop, rock et le dangdut dans sa musique. Camilla Malik est d'origine la famille qui aime de l'art. Son père, Jamaluddin Malik, est cinéaste ainsi que musicien. Mais Mia est plus célèbre comme chanteuse ainsi que diva de dangdut. Bon, chers amis, allez écouter la chanson de Mia intitulée Kalangkang Cinta. Bonne écoute.
Thank you.
Chers amis, avec cette chanson, Camélia Malik gagne le grand succès. Et puis, elle joue le rôle dans le film. Mais hélas, elle a du succès dans sa carrière, dans la musique, mais sa famille est triste. Plus tard, elle se divorce avec son mari, Reynold Panggabean. Bien que maintenant, elle se présente rarement au public, mais elle se présente quelquefois au programme à la télévision. Chers amis, c'était l'histoire de Camélia Malik. Et avant de vous quitter, allez écouter d'abord les deux dernières chansons de Mia, intitulées « Raba Raba et Segudang Rindu ». Merci de votre attention et fidélité. Bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.